Chapitre 11. Jean de théâtre. Déjazé. Quand j'ai vu Déjazé à la scène, il y a déjà longtemps, elle était plus près de 70 ans que de 60. Et malgré tout son charme, les satins étroits plissaient sur sa silhouette frêle. La poudre sur sa tête semblait la vraie glace de l'âge, et les rubans de son costume flottaient tristement à tous ses gestes qui, pour paraître fringants et légers, n'accusait que mieux l'ankylose des années et du sang refroidi. Un soir, pourtant, la comédienne m'est apparue tout à fait charmante. Ce n'était pas au théâtre, mais chez des amis à Seine-Port. On prenait le café au salon, toutes les fenêtres ouvertes sur un parc magnifique et une claire nuit d'été. Tout à coup, dans un reflet de lune, une petite forme blanche se dressa sur le seuil et une voix grêle demanda « Est-ce qu'on veut de moi ?» C'était Mademoiselle Déjazé. Elle venait en voisine, sa compagne étant tout à côté, passer la soirée parmi nous. Accueillie avec empressement, elle s'assit d'un air réservé, presque timide. On lui demanda de dire quelque chose. Le chanteur fort se mit au piano pour l'accompagner, mais l'instrument la gênait. Les notes les plus douces, mêlées à sa voix, nous auraient empêchés de l'entendre. Elle chanta donc sans accompagnement, et debout au milieu du salon, dont le vent agitait les rares lumières, enveloppée dans une petite robe en mousseline blanche qui semblait la rendre à l'âge vague de très jeunes filles ou des aïeules, elle commença sur un petit timbre chevrotant et menu, mais très distinct, sonnant comme un violon mystérieux dans le silence du parc et de la nuit. « Enfant, c'est moi qui suis Lisette, la Lisette du chansonnier !» C'est toujours ainsi que je la vois quand je pense à elle. Le Sueur. Bien des choses avaient manqué à Le Sueur pour acquérir d'emblée l'autorité d'un grand comédien. Sa voix était sourde, voilée, d'un mauvais métal qui s'éraillait aux efforts de sonorité. Un défaut de mémoire le tourmentant aussi l'amenait à tout moment devant la boîte du souffleur. Enfin, grêle, fluet, presque petit, il manquait de cette prestance qui, aux instants pathétiques, domine et tient toute la scène. Non seulement Le Sueur triomphait de tant de défauts, mais il donnait raison à la théorie de Régnier, qui veut que l'acteur soit obligé de lutter contre certains obstacles physiques. Les finesses, où sa voix échouait, se retrouvaient dans ses yeux jaseurs, dans les détails de sa mimique. Et si des parties du rôle lui échappaient, il n'avait jamais de loup dans son jeu parce qu'il était toujours à la situation et qu'il savait ce que tant de comédiens ignorent, l'art d'écouter. Quant à la taille, comment arriva-t-il à y suppléer? Ce qui est sûr, c'est que dans certaines pièces, Don Quichotte par exemple, il paraissait très grand et remplissait le théâtre de l'ampleur de son geste. Toute proportion gardée, on retrouvait en lui du Frédéric, cette même souplesse à endosser tous les costumes de la comédie humaine, à porter la vareuse d'un rapin, la pourpre burlesque d'un roi de féerie, l'habit noir mondain, avec une aisance parfaite et une égale distinction. Tous deux avaient de commun aussi une fantaisie qui donnait à leur création quelque chose d'excessif, marquait leur rôle d'une empreinte ineffaçable et en rendait la reprise très difficile après eux. Demandez à Goethe, qui est lui-même un parfait artiste, le mal qu'il a eu à faire sien le personnage du père Poirier, créé il y a 30 ans par le comédien du gymnase. Quand Le Sueur jouait dans une pièce, l'auteur pouvait se dire que, même en cas de désastre, tout son effort ne serait pas perdu et qu'un rôle survivrait toujours du naufrage, le rôle de Le Sueur. Qui se souviendrait aujourd'hui des Fous d'Édouard Plouvier s'il n'y avait joué son magnifique buveur d'absinthe? Qu'il était beau devant son verre, la lèvre humide et grelottante, tenant haut la carafe qui tremblait dans sa main et distillant goutte à goutte le poison vert dont on suivait les effets sur son masque hébété et blafard. C'était d'abord une bouffée de chaleur, une convulsion de vie dans ce squelette gelé, desséché par l'alcool. Un peu de sang arrivait aux joues, un éclair illuminait les yeux. Mais bientôt, le regard redevenait vitreux, sans buée, la bouche détendue laissait retomber ses coins. Mime merveilleux, il savait à fond l'outillage, les fils cachés de la pauvre marionnette humaine, et il les maniait avec une dextérité, une précision. Lorsqu'il pleurait, tout sanglotait en lui, ses mains, ses épaules. Rappelez-vous la façon dont il détalait dans le chapeau d'un horloger, ses jambes qui se précipitaient, se multipliaient, comme s'il avait eu 10, 20, 30 paires de jambes. Et quel poème que son regard quand il se réveillait dans la partie de piquet. Ah, le sueur, le sueur. Félix. Étrange figure que celle de ce Félix. En écrivant son nom, il vient de m'apparaître, fat et balourd, l'œil arrondi, le front bas, carré, têtu, toujours plissé d'un effort de comprendre, le meilleur des hommes, mais d'une sottise, d'une vanité de coq d'Inde. Il faut avoir travaillé avec lui à l'avant-scène pour s'imaginer cela. D'abord, sitôt après la lecture au foyer, Félix montait chez le directeur pour rendre le rôle que vous veniez de lui distribuer et qui ne lui convenait pas. Tous les autres lui semblaient bons dans l'ouvrage, excepté celui-là. Il eût été bien empêché de dire pourquoi, par exemple. Non, c'était une manie, un besoin de se faire prier, d'amener les auteurs à son 4e étage de la rue Geoffroy-Marie, dans ce petit intérieur de province, propre, douillé, minutieux, qu'on aurait pu prendre pour un appartement de chanoine ou d'archiprêtre, sans l'innombrable quantité de portraits, de médaillons, de photographies, rappelant à l'artiste chacune de ses créations. Il fallait s'asseoir, accepter un petit verre de quelque chose de doux, et tâcher de fléchir, à force d'éloquence, de compliments, d'enguirlandements, cette exaspérante coquetterie. À cette première visite, Félix ne s'engageait pas, ne promettait rien. Il verrait, il réfléchirait. Quelquefois, quand le rôle lui faisait très envie, il vous disait d'un air détaché, indifférent, « Laissez-moi la pièce, je vais lire encore. » Et Dieu sait ce qu'il y comprenait, le pauvre homme. 8 jours, 15 jours, il gardait le manuscrit, ne parlait plus de rien. Dans le théâtre, on chuchotait « Jouera, jouera pas. » Puis, lorsque là d'attendre, de voir tout entravé par le caprice d'un seul, vous vous disposiez à envoyer le grand comédien au diable, il arrivait à la répétition, dispo, souriant, sachant déjà son rôle par cœur, et faisant flamber les planches rien que de poser le pied dessus. Mais vous n'en aviez pas fini avec ces fantaisies, et jusqu'au jour de la représentation, il fallait s'attendre à de terribles secouées. Ce jour-là, il est vrai, la verve incomparable de ce singulier artiste qui se transfigurait dans la lumière de la rampe, ses effets inconscients, toujours sûrs, toujours compris, son action irrésistible sur le public, vous payez bien de toutes vos misères. Madame Arnoux Plessis. L'avez-vous vue dans Henriette Maréchal? Vous la rappelez-vous, devant son miroir, jetant un long regard désespéré à ce confident muet et implacable, et disant, avec une intonation déchirante, « Oh, j'ai bien mon âge aujourd'hui !» Ceux qui ont entendu cela ne pourront jamais l'oublier. C'était si profond, si humain. Rien que dans ces 4 mots, accentués lentement, tombant l'un après l'autre comme les notes d'un glas, la comédienne faisait tenir tant de choses. Le regret de la jeunesse disparue, l'angoisse navrée de la femme qui sent que son règne est fini, et que, si elle n'abdique pas de bonne volonté, la vieillesse va venir tout à l'heure lui signer son renoncement d'un coup de griffe en pleine figure. Minute horrible pour la plus forte, pour la plus honnête. C'est comme un exil subi, un changement de climat et la surprise d'une atmosphère glacée succédant à cet air embaumé et tiède, plein de murmures flatteurs et d'adulations passionnées qui entourent la beauté de la femme dans le midi de son âge. Pour la comédienne, l'arrachement est encore plus cruel. Chez elle, la coquetterie s'accroît et s'exaspère d'un désir de gloire. Aussi, la plupart des actrices ne veulent jamais finir, n'ont pas le courage de se mettre une bonne fois devant leur glace et de se dire « J'ai bien mon âge aujourd'hui ». Celles-là sont vraiment à plaindre. Elles ont beau lutter, s'accrocher désespérément au lambeau défleuri de la couronne tombée, elles voient le public s'éloigner d'elles, l'admiration remplacée par l'indulgence, puis par la pitié, et, ce qui est plus navrant que tout, par l'indifférence. Grâce à son esprit, grâce à sa fierté, la grande et vaillante Arnoux Plessis n'a pas attendu cette heure désolante. Ayant encore quelques années devant elle, elle a préféré disparaître en pleine gloire, comme un de ces beaux soleils d'octobre qui plongent sous l'horizon brusquement, plutôt que de traîner leur agonie lumineuse dans un vague et lent crépuscule. Sa réputation y aura gagné, mais nous y avons perdu les belles soirées qu'elle pouvait nous donner encore. Avec elle, Marivaux est parti, et le charme de son art merveilleux, de cette phrase chatoyante et papillonnante qui a l'ampleur capricieuse d'un éventail déployé aux lumières. Toutes ces belles héroïnes, qui s'appellent comme des princesses de Shakespeare, et qui ont quelque chose de leur élégance éthérée, sont rentrées dans le livre. On les évoque, elles ne viennent plus. Finis aussi tous ces jolis jeux d'esprit et de langage, ces causeries un peu maniérées, un peu alambiquées, mais si françaises, comme Musset en a tant écrit, badinage charmant qui appuie sur le rebord d'une table à ouvrage, leurs coudes chargés de dentelles traînantes, et tous les caprices souriants de l'oisiveté amoureuse. Tout cela est mort maintenant. On ne sait plus causer, marivauder au théâtre. C'est une tradition perdue depuis qu'Arnoux Plessis n'est plus là. Et puis, à côté de l'artiste d'études et de méthodes, de la fidèle interprète des traditions de l'art français, il y avait dans cette excellente comédienne un talent original et chercheur, soit qu'elle se prît aux grandes créations tragiques, comme dans cette Agrippine, qu'elle jouait d'une façon si accentuée, bien plus selon Suétone que selon Racine, soit qu'elle créât en pleine vie moderne, en plein art réaliste, la Nanny du drame de Meillac, paysanne ignorante et mère passionnée. Je me souviens surtout d'une scène où, pour exprimer les mille sentiments confus qui se heurtaient dans son âme ambitieuse et jalouse, Nanny, inculte, bègue, cherchant ses mots, avait tout à coup un élan de rage folle contre elle-même et râlait en meurtrissant de coups sa poitrine. « Ah, paysanne ! Paysanne !» L'actrice disait cela à faire frissonner toute la salle. Eh bien, des cris pareils, des mouvements de cette vérité, ce n'est pas la tradition, ce n'est pas l'école qui les donne, c'est la vie longtemps étudiée, regardée et sentie. Et n'est-ce pas un beau triomphe, la preuve d'un admirable pouvoir de création, qu'un drame sombre comme Nanny, joué à peine une dizaine de fois, reste éternellement dans l'esprit et les yeux de ceux qui l'ont vu, parce que Madame Arnoux Plessis en a interprété le principal personnage? Adolphe Dupuis. Adolphe Dupuis est le fils de Rose Dupuis, sociétaire de la Comédie-Française, retirée du théâtre depuis 1835 et morte il y a seulement quelques années. Malgré un talent très réel et des succès chèrement conquis à côté de Mademoiselle Mars, l'excellente femme gardait rigueur à son ancien métier. Et lorsqu'au sortir du collège Chaptal, où il avait fait d'assez médiocres études, sur le même banc qu'Alexandre Dumas-fils, Dupuis parla d'être comédien, la mère s'y opposa de toutes les forces de sa tendresse. Mais on sait ce que vaut le jamais de la femme qui aime, et celle-là aimait passionnément son grand-fils. Au conservatoire, l'élève ne réussit guère mieux qu'à Chaptal. Non, certes que l'intelligence lui fit défaut, il en avait trop au contraire, mais de celle que l'école n'admet pas, cette intelligence aiguisée, personnelle, qui résonne dans le rang, et veut savoir pourquoi le commandement de tête à droite quand c'est à gauche qu'il faut aller. En pleine classe, l'écolier discutait les idées de son maître, Sanson s'insurgeait contre cette façon de préparer, de ressasser le concours avec le professeur, au lieu de laisser un peu d'initiative à l'élève. Il demandait pour l'examen un morceau déchiffré à livre ouvert, non pas appris, serinait 10 mois d'avance et réclamait enfin comme plan général d'études une place plus large à la nature au détriment de la tradition. Pensez si le vieux Sanson devait bondir à ses théories subversives. Malgré tout, il se sentait de la sympathie pour le fils de son ancienne camarade, ce jeune révolté au sang calme, au sourire bon enfant, et il le fit entrer à la Comédie-Française comme 5e ou 6e amoureux de répertoire. Dupuis n'y resta pas longtemps. Un jour, Fetcher, qui tenait dans la maison le même emploi que lui et ne jouait pas davantage, lui dit tout bas dans un coin du foyer « Si nous filions, on meurt ici. »« Filons, » dit Dupuis. Et voilà nos jeunes premiers partis pour Londres, pour Berlin, chantant « Je suis Lindor », aux quatre coins de l'Europe, mal payés, peu compris, applaudis de travers, mais jouant, ayant des rôles, ce que les débutants préfèrent à tout. 2 ans après, vers 1850, nous retrouvons notre comédien au gymnase, entre les mains de Montigny, qui, le premier, comprit ce qu'il y avait à tirer de ce beau garçon, un peu lent, un peu mou, l'assouplit par un travail acharné, des créations multiples et diverses, le grima en vieux, en ouvrier, en raisonneur, en père noble, mit en œuvre toutes ses facultés d'observation, de finesse, de sensibilité, de bonhomie, et cet admirable accent de nature que personne n'a comme lui. Après 10 ans passés là, au lendemain du grand succès du demi-monde dont il avait eu sa belle part, Dupuis se laissa tenter par un engagement en Russie. Il y resta longtemps, trop longtemps, et lorsqu'il nous revint, après 17 ans d'absence, eut quelque mal à reconquérir son public. C'est l'histoire de tous les revenants du Théâtre Michel. Il faut croire que le diapason n'est pas le même à Saint-Pétersbourg que chez nous. On doit parler plus bas, jouer plus discrètement, s'entendre à demi-mot et ne rien souligner, comme dans un salon, entre gens qui se connaissent et ne sont pas très difficiles. À ce jeu-là, qualités et défauts s'estompent, s'atténuent. Nous reconnaissons bien nos artistes, mais la rampe n'a pas l'air montée. On les voit confusément, comme à travers une gaze. Le soir du nabab, par exemple, les vieux Parisiens retrouvèrent leur Dupuis avec tous ses dons d'autrefois, même quelque chose en plus, une largeur d'envergure, une fougue de sang marseillais dont ce père tranquille ne leur paraissait pas capable. Au lendemain de cette représentation, il n'a tenu qu'à Jean Soulet d'entrer à la Comédie-Française par l'escalier d'honneur ouvert à deux battants et non plus par la porte dérobée de ses débuts. Mais l'ancien élève de Sanson a gardé ses goûts d'indépendance, sa libre humeur des premiers jours, et l'administration de la rue Richelieu, n'ayant pas cru devoir se plier à ses exigences, le vaudeville a eu la bonne fortune de conserver son acteur. La Fontaine. Henri Thomas, dit La Fontaine, est né à Bordeaux, voilà 50 ans, au premier jour de l'égire romantique. Dans le Midi français, Bordeaux tient une place à part. Ancré au bord de l'Atlantique, son beaupré tourné vers les Indes, Bordeaux, c'est le Midi créole, le Midi des îles, exaspéré, qui, à la fougue imaginative, à la vivacité de paroles et d'impressions des peuples d'outre-Loire, joint un immodéré besoin d'aventure, de course, d'escampette. Ce Bordeaux-là joue un grand rôle dans l'existence et le génie de notre comédien. « Nous en ferons un prêtre », disait sa mère, une vraie maman de là-bas, catholique jusqu'au délire. Mais, à peine au séminaire, le bordelais saute par-dessus les murs, troque sa soutane contre une blouse et commence à travers champs le voyage du petit chaperon rouge, tout en zigzag et en caprice, jusqu'à ce que le loup, un loup à baudrier jaune et chapeau de gendarme, l'arrête et lui demande ses papiers. Ramené chez lui de brigade en brigade, on veut qu'il rentre au séminaire. Ça, jamais. Alors, vaurien, embarque pour les îles. Et voilà bien une colère de parents du Midi. Il ne veut pas être curé. Zou, nous allons en faire un mousse. 3 mois de gourganes et de viande salée, dans la mouillure et le vent de mer, guérir le jeune échappé de ses velléités voyageuses, sans lui donner pourtant le goût de la tonsure. À son retour de l'île Bourbon, il essaya de 20 métiers, fut tour à tour menuisier, serrurier, revendeur d'une infinité de choses, coucha sur la dure, se nourrit de vaches enragées, allant devant lui au gré de sa genèse et du fol instinct bordelais, sans but, mais les yeux ouverts et déjà une mémoire d'artiste. Le voici à Paris, placé chez un libraire, arpentant les rues, grimpant les étages, marchant de littérature et de science, l'esprit meublé de titres et de prospectus, faisant l'article pour des livres qu'il n'a pas le temps de lire, mais qui lui laissent tout de même un peu de phosphore au doigt. Tenace, insinuant, éloquent, irrésistible, un placier comme la maison Lachâtre n'en avait jamais vu. Puis, un soir, il entre à la porte Saint-Martin, voit Frédéric, et sans ce coup au cœur que connaissent seuls les amoureuses et les artistes. « Anch'io son comediante !» Il plante là bouquins et revues et s'en va frapper chez Cévès, gouverneur général des théâtres de la banlieue. « Que sais-tu faire? As-tu déjà joué ?»«
Jamais, patron, mais donnez-moi des rôles et vous allez voir. »
Dans cette belle présomption bordelaise, aux yeux vifs, aux gestes larges, à la voix forte et métallique, Sevestre devina tout de suite un tempérament de théâtre. Ce tempérament est commun au midi, à sa nature verbeuse, gesticulante, qui met tout dehors, exprime tout, pense à voix haute, la parole toujours au-delà de la pensée. L'homme de Tarascon et l'homme de la Porte Saint-Martin se ressemblent. Sur ce petit théâtre de la rue de la Gaîté, où plus tard débutait Mounet-Sully, La Fontaine fit son apprentissage. Il joua à Sceaux, à Grenelle, roula dans l'omnibus des scènes de banlieue, une brochure à la main, déclamant Bouchardy sur les routes. Il réussit. Le bruit de son succès passa les ponts, vint jusqu'au boulevard, et quelque temps après, Henri Lafontaine entrait à la Porte Saint-Martin pour jouer dans Kin, à côté de Frédéric, qui tout de suite l'aima et le fit travailler. « Viens, petit !» disait le maître en sortant du théâtre. Et il emmenait chez lui, au boulevard du Temple, l'élève exténué par 5 heures de planche, les yeux pleins de sommeil, la joue brûlée de gaz et de maquillage. Mais il s'agissait bien de dormir. Le souper était servi, tous les flambeaux du salon allumés. On buvait, on mangeait en hâte, puis le maître donnait un sujet de scène, une situation dramatique à rendre, et, s'allongeant sur son fauteuil, un flacon de vin près de lui, « Maintenant, vas-y !» Le bon comédien Lafontaine m'a souvent raconté l'histoire d'un de ses scénarios improvisés. « Voilà, » dit Frédéric allongé sur son divan, « tu es un petit employé, marié depuis 3 ans. C'est ce soir la fête de ta femme que tu adores. En son absence, tu lui as préparé un bouquet, une surprise, un bon petit souper comme celui-ci. Et tout à coup, en mettant le couvert, tu découvres une lettre qui t'apprend que tu es indignement trompé. Tâche de me faire pleurer avec ça. Marche !» Vivement, Lafontaine se met à l'œuvre, dresse son couvert en conscience, sans tricherie, car Frédéric ne plaisantait pas sur la question des accessoires, pose son bouquet au milieu de la table avec de petits rires, des regards mouillés, puis, frémissant d'impatience et de joie, ouvre le tiroir où la surprise est serrée, trouve une lettre, la lit machinalement et pousse un cri terrible dans lequel il essaie de mettre tout le désespoir de son bonheur foudroyé. « Entre nous, j'en étais assez content de mon cri », me disait le brave Lafontaine, s'égayant au souvenir de sa mésaventure. Je le trouvais juste, ému, sincère. Je m'étais presque fait pleurer en le poussant. « Ah bien oui ! Au lieu du compliment que j'attendais, un formidable coup de pied m'arrive au bas de l'échine. Je ne m'en émus pas trop, car j'étais fait aux manières de mon maître. Mais ce fut sa critique qui me frappa surtout. « Comment, animal, tu aimes ta femme par-dessus tout au monde, tu crois en elle aveuglément, aveuglément, et voilà qu'à la première lecture, tu vois, tu comprends, tu crois tout ce que ce papier te raconte. Est-ce que c'est possible ? Tiens, va t'asseoir là-bas et regarde-moi distiller mon poison. » Là-dessus, lui-même recommence la scène, ouvre le tiroir. Tiens, une lettre. Il la tourne, la retourne, la parcourt du bout des yeux sans comprendre, la repousse dans le tiroir et continue à ranger son couvert. Tout de même, c'est drôle cette lettre. Il y revient encore, la lit plus longuement, puis, haussant les épaules, la jette sur la table. « Allons donc, ce n'est pas vrai, c'est impossible. Elle va tout expliquer en rentrant. » Mais comme ses mains lui tremblent en achevant de mettre son couvert. Et toujours les yeux sur la lettre. À la fin, il n'y tient plus, il faut qu'il la lise encore. Cette fois, il a compris. Un sanglot lui monte à la gorge, l'étouffe. Il tombe sur une chaise en râlant. C'était, paraît-il, un spectacle admirable de voir les traits du grand comédien se décomposer un peu plus à chaque nouvelle lecture. On suivait les effets du poison à mesure que ses yeux l'absorbaient. Puis, une fois saisi par sa propre émotion, Frédéric ne s'arrêtait plus, continuait la pièce. Un tressau de tout son corps, un regard sanglant vers la porte. Sa femme venait d'entrer. Il la laissait venir jusqu'à lui, sans bouger, et soudain se dressait,
terrifiant, sa lettre à la main. « Lis !» Puis, avant qu'elle eût répondu, devinant à l'épouvante de ce visage de femme que c'était vrai, que la lettre n'avait pas menti, il tournait deux ou trois fois sur lui-même, comme une bête ivre, cherchait un cri, n'en trouvait pas, et toujours amoureux, même dans sa rage, pour passer sur quelque chose qui ne fût pas sa femme, le besoin furieux de massacrer dont ses mains étaient pleines, il prenait la table à poignée et l'envoyait rouler à l'autre bout du salon, avec la lampe, sa vaisselle, tout ce qu'elle portait. Ce coup de pied sacra La Fontaine, grand acteur, et fut, pour sa foi de comédien, comme une confirmation par en bas. Pourtant, s'il n'avait eu que les leçons de Frédéric, l'artiste bordelais n'aurait jamais pu régler, endiguer son fougueux vagabondage. Son midi le portait, mais le gênait aussi. Il en avait l'improvisation brillante, mais aussi les emportements, le manque de mesure, tous les heurts de soleil et d'ombre. Si bien doué, il pouvait manquer sa vie, n'être qu'un détraqué sublime, comme ce pauvre Roubière qu'affolait son double tempérament d'acteur et de méridional. Par bonheur, La Fontaine entra au gymnase et eut là, pendant 10 ans, un professeur incomparable. Ceux qui ont vu le vieux Montigny dans son fauteuil, à l'avant-scène, bourru, le sourcil froncé, faisant recommencer 10 fois, 20 fois le même passage, rompant les plus durs, les plus rebelles, toujours insatisfaits, s'acharnant au mieux, ceux-là peuvent se vanter d'avoir connu un vrai directeur de théâtre. Avec lui, le talent de l'artiste se disciplina. À sa verve exubérante, Montigny mit, comme une cangue, le hausse-col du fils de famille, ce même fils de famille que La Fontaine a repris il y a quelque temps à l'Odéon. Il lui boutonna son geste du midi dans la redingote en drap fin du mari de Diane de Lys. Le bordelais se cabrait, avalait son mort. Mais il sortit de là, dompté, assoupli, accompli, et aujourd'hui, quand il parle de son vieux maître, il a toujours les yeux mouillés.